Tout est motif de conjecture pour une prisonnière. Il semblait à Marie que la figure de ce jeune homme ne lui était pas inconnue et que déjà elle s'était offerte à ses yeux. Cependant, avec quelque soin qu'elle interrogea sa mémoire, elle ne lui rappelait aucun souvenir distinct, si bien que la reine finit par croire que c'était un jeu de son imagination ou que quelque vague et lointaine ressemblance l'avait trompée. Cependant, malgré Marie, cette pensée avait pris une place importante dans son esprit. Elle voyait sans cesse cette petite barque rasant l'eau et le jeune homme et l'enfant qui la montait se rapprochant d'elle comme pour lui apporter du secours. Il en résulta que, quoiqu'il n'y eût rien de positif dans tous ses rêves de captive, elle dormit cette nuit d'un sommeil plus tranquille qu'elle n'avait encore fait depuis qu'elle était au château de Lorleven. Le lendemain, en se levant, Marie courut à sa fenêtre. Le temps était beau et tout semblait lui sourire, l'eau, le ciel et la terre. Cependant, sans se rendre compte du motif qui la retenait, elle ne voulut pas descendre au jardin avant le déjeuner. Mais lorsque la porte s'ouvrit, elle se retourna rapidement. C'était, comme la veille, William Douglas qui venait remplir son office de dégustateur. Le déjeuner fut court et silencieux. Puis, dès que Douglas fut retiré, Marie descendit à son tour. En traversant la cour, elle aperçut deux chevaux tout sellés qui indiquaient le prochain départ d'un maître et d'un écuyer. Était-ce le jeune homme aux cheveux noirs qui repartait déjà ? C'est ce que Marie n'osa ou ne voulut point demander. Elle continua en conséquence sa route et entra dans le jardin. Du premier coup d'œil, elle l'embrassa dans toute son étendue. Il était solitaire. Marie s'y promena un instant, puis bientôt, se lassant de la promenade, elle remonta à sa chambre. En repassant dans la cour, elle avait remarqué que les chevaux n'y étaient plus. Aussitôt rentrée dans son appartement, elle alla donc à la fenêtre pour voir si elle ne découvrirait rien sur le lac qui pût la guider dans ses conjectures. En effet, une barque s'éloignait et dans cette barque étaient les deux chevaux et leurs deux cavaliers. L'un de ces cavaliers était William Douglas, l'autre un simple écuyer de la maison. Marie suivit la barque des yeux jusqu'à ce qu'elle eût touché le rivage. Arrivés là, les deux cavaliers en sortirent, tirèrent leurs chevaux après eux et s'éloignèrent au grand galop, suivant le même chemin par lequel la reine était venue, de sorte que comme les chevaux étaient couverts d'un harnais complet, Marie pensa que William Douglas se rendait à Édimbourg. Quant à la barque, à peine eut-elle déposé ses deux passagers sur la rive opposée qu'elle revint vers le château. En ce moment, Mary Seyton annonça à la reine que Lady Douglas demandait la permission d'être introduite auprès d'elle. C'était la seconde fois qu'après une longue haine de la part de Lady Douglas et une indifférence méprisante de la part de la reine, les deux femmes allaient se trouver en face l'une de l'autre. Aussi la reine, avec ce mouvement instinctif de coquetterie qui pousse les femmes, dans quelque situation qu'elles se trouvent, à vouloir être belles, surtout pour les femmes, fit-elle un signe de la main à Mary Seyton et, allant devant une petite glace accrochée au mur dans un lourd encadrement gothique, elle arrangea les boucles de ses cheveux, rajusta la dentelle de sa collerette, puis, s'étant assise dans la pose qui lui était la plus avantageuse sur un grand fauteuil, le seul qui se trouva dans le salon, elle dit en souriant à Mary Seyton qu'elle pouvait faire entrer Lady Douglas qui, à l'instant même, fut introduite. L'attente de Marie ne fut pas trompée. Lady Douglas, malgré sa haine pour la fille de Jacques V et si maîtresse qu'elle se crut d'elle-même, ne put s'empêcher de témoigner par un mouvement de surprise l'impression que cette beauté merveilleuse faisait sur elle. Elle avait cru trouver Marie écrasée par son malheur, pâlie par ses fatigues, désenorgueillie par la captivité, et elle la voyait calme, belle et hautaine comme d'habitude. Marie s'aperçut de l'effet qu'elle produisait et, s'adressant avec un sourire ironique, moitié à Mary Seyton, qui était appuyée au dossier de sa chaise, et moitié à celle qui lui rendait cette visite imprévue. « Nous sommes heureuses aujourd'hui, » dit-elle, « car nous allons, à ce qu'il paraît, jouir de la société de notre bonne hôtesse, que nous remercions d'ailleurs d'avoir bien voulu garder encore vis-à-vis de nous le vin cérémonial de l'annonce, chose dont elle aurait pu se dispenser, ayant les clés de notre appartement. « Si ma présence est importune à votre grâce, répondit Lady Lochleven. J'en suis d'autant plus désespérée que les circonstances me feront un devoir de la lui imposer deux fois par jour, du moins pendant tout le temps que durera l'absence de mon fils, qui est appelé à Édimbourg par le régent. C'est ce dont je venais prévenir votre grâce, non point avec le vain cérémonial de la cour, mais avec les égards que Lady Lochleven doit à toute personne qui a reçu l'hospitalité de son château. Notre bonne hôtesse s'est méprise à notre intention, reprit Marie avec une bonhomie affectée. Et le régent lui-même peut nous rendre témoignage du plaisir que nous avons toujours eu à rapprocher de nous les personnes qui peuvent nous rappeler, même indirectement, notre bien-aimé père Jacques V. Ce serait donc à tort que Lady Douglas interpréterait d'une façon désagréable pour elle notre surprise en la voyant, et l'hospitalité qu'elle nous offre avec tant d'obligeance ne nous promet pas, malgré sa bonne volonté, assez de distraction pour que nous nous privions de celles que ne peuvent manquer de nous procurer ces visites. Malheureusement, madame, répondit Lady Lochleven, que Marie tenait debout devant elle, quelque plaisir que j'éprouvasse moi-même à ces visites, je serais forcée de m'en priver, excepté aux heures que je vous ai dites. Je suis maintenant trop vieille pour supporter la fatigue et j'ai toujours été trop fière pour souffrir les sarcasmes. En effet, Seyton, s'écria Marie avec un apparent retour sur elle-même. Nous n'avions pas songé que Lady Lochleven, ayant gagné ses droits au tabouret à la cour du roi mon père, avait dû les conserver dans la prison de la reine, sa fille. Avancez un tabouret, Seyton, que nous ne soyons pas privés si tôt et par un manque de mémoire de notre part de la compagnie de notre gracieuse hôtesse. Ou même, continua Marie en se levant et en indiquant à Lady Lochleven, qui faisait un mouvement pour se retirer, son propre siège, si un tabouret ne vous convient pas, Milady, prenez ce fauteuil. Vous ne serez pas la première personne de votre famille qui se soit mise à ma place. » À cette dernière allusion, qui lui rappelait l'usurpation de Murray, Lady Lochleven allait sans doute faire quelques réponses pleines d'amertume lorsque le jeune homme aux cheveux bruns parut, sans être annoncé, sur le seuil de la porte et s'avançant vers Lady Lochleven sans saluer Marie. « Madame, lui dit-il en s'inclinant devant elle, la barque qui a conduit mon frère vient de revenir et l'un des hommes qui la monte est chargé pour vous d'une recommandation pressée que Lord Williams a oublié de vous faire à vous-même. » Puis, saluant la vieille dame avec le même respect, il sortit aussitôt de la chambre, sans même tourner les yeux du côté de la reine, qui, blessée de cette impertinence, se retourna vers Marie Seyton, et avec son calme ordinaire, « Que nous avait-on raconté, Seyton, de bruits injurieux qui s'étaient répandus sur notre digne hôtesse à propos d'un enfant à visage pâle et à cheveux noirs ? Si cet enfant, comme j'ai tout lieu de le croire, est devenu le jeune homme qui sort d'ici, je suis prête à affirmer à tous les incrédules que c'est un véritable Douglas, sinon pour le courage dont nous ne pouvons pas juger, mais pour l'insolence dont il vient de nous donner des preuves. Rentrons, mignonne !» continua la reine en s'appuyant sur le bras de Marie Seyton. « Car notre bonne hôtesse pourrait se croire, par courtoisie, obligée de nous tenir compagnie plus longtemps, tandis que nous savons qu'elle est impatiemment attendue ailleurs. » À ces mots, Marie rentra dans sa chambre à coucher, tandis que la vieille lady, encore tout étourdie de la nuée de sarcasme que la reine avait fait pleuvoir sur elle, se retirait en murmurant « Oui, oui, c'est un Douglas !» et avec l'aide de Dieu, il le prouvera, je l'espère. » La reine avait eu de la force tant qu'elle avait été soutenue par la présence de son ennemi. Mais à peine fut-elle seule qu'elle se laissa tomber sur une chaise et, n'ayant plus d'autre témoin de sa faiblesse que Marie Seyton, se mit à fondre en larmes. En effet, elle venait d'être cruellement frappée. Jusqu'alors, aucun homme ne s'était approché d'elle qu'il n'eût rendu hommage soit à la majesté de son rang, soit à la beauté de son visage. Et celui-là, justement, sur lequel elle avait conçu, sans savoir pourquoi, des espérances instinctives, l'insultait à la fois dans son double orgueil de reine et de femme. Aussi demeura-t-elle renfermée jusqu'au soir. À l'heure du dîner, ainsi que Lady Lochleven en avait prévenu Marie, elle monta à l'appartement de la reine, vêtue de sa robe d'honneur et précédant quatre domestiques qui portaient les différents plats dont devait se composer le repas de la prisonnière et qui, à leur tour, étaient suivis du vieil intendant du château, ayant, comme au jour des grandes cérémonies, sa chaîne d'or au cou et sa canne d'ivoire à la main. Les domestiques placèrent les plats sur la table et attendirent en silence qu'il plût à la reine de sortir de sa chambre. Mais en ce moment, la porte s'ouvrit et, au lieu de la reine, ce fut Marie Seyton qui parut. « Madame, dit-elle en entrant, sa grâce s'est trouvée indisposée pendant la journée et ne prendra rien ce soir. Il serait donc inutile que vous l'attendissiez plus longtemps. »« Permettez-moi d'espérer, répondit Lady Lochleven, qu'elle changera de résolution. En tout cas, voyez-moi m'acquitter de mon devoir. » À ces mots, un domestique présenta à Lady Lochleven du pain et du sel sur un plateau d'argent, tandis que le vieil intendant, qui, en l'absence de William Douglas, remplissait les fonctions d'écuyer tranchant, lui servait sur une assiette du même métal un morceau de chacun des plats qu'on avait apportés. Puis, cette opération terminée, « Ainsi, la reine ne paraîtra point aujourd'hui ?» demanda Lady Lochleven. « C'est la résolution de Sa Majesté, » répondit Marie Seyton. « Notre présence est donc inutile, » dit la vieille dame. « Mais en tout cas, la table est servie, et si Sa Grâce avait besoin de quelque autre chose, elle n'aurait qu'à appeler. » À ces mots, Lady Lochleven, avec la même raideur et la même dignité qu'elle était venue, se retira, suivie de ses quatre domestiques et de son intendant. Ainsi que Lady Lochleven l'avait prévu, la reine, cédant aux instances de Marie Seyton, sortit enfin de sa chambre vers les 8 heures du soir, se mit à table et, servie par la seule dame d'honneur qui lui resta, mangea quelque peu de choses. Puis, se levant, elle alla se mettre à sa fenêtre. Il faisait une de ces magnifiques soirées d'été pendant lesquelles la nature tout entière semble en fête. Le ciel était parsemé d'étoiles qui se réfléchissaient dans le lac et au milieu d'elles, comme une étoile plus ardente, brillait la flamme d'un réchaud brûlant à la poupe d'une petite barque. La reine, à la lueur de la lumière qu'elle répandait, aperçut George Douglas et le petit Douglas qui pêchaient au feu. Quelque envie qu'elle eût de profiter de cette belle soirée pour respirer l'air pur de la nuit, la vue de ce jeune homme, qui lui avait fait le jour même une grossière insulte, l'impressionna si vivement qu'elle referma aussitôt sa fenêtre et, se retirant dans sa chambre, se coucha et se fit lire à haute voix quelques prières par sa compagne de captivité. Puis, ne pouvant s'endormir tant elle était agitée, elle se releva et, passant une robe de chambre, elle alla se remettre à sa fenêtre. La barque avait disparu. Marie resta une partie de la nuit, les regards perdus dans l'immensité du ciel ou dans les profondeurs du lac. Et cependant, malgré la nature des pensées qui l'agitaient, elle n'éprouva pas moins un soulagement physique très grand dans le contact de cet air pur et dans la contemplation de cette nuit calme et silencieuse. Aussi, le lendemain, se réveilla-t-elle plus tranquille et plus résignée. Malheureusement, la vue de Lady Lochleven, qui se présenta devant elle à l'heure du déjeuner pour remplir ses fonctions de dégustatrice, lui rendit toute son irritabilité. Peut-être, cependant, les choses se seraient-elles passées tranquillement si Lady Lochleven, au lieu de demeurer debout près du buffet, se fût retirée après avoir goûté les différents mets qui composaient le service, mais cette insistance à rester près d'elle pendant tout le repas, qui n'était peut-être au fond qu'une marque de respect, parut à la reine une tyrannie insupportable. « Mignonne, dit-elle en s'adressant à Marie Seyton, as-tu déjà oublié que notre bonne hôtesse s'est plainte hier de la fatigue qu'elle éprouvait à rester debout? Approche-lui donc un des deux tabourets qui forment notre ameublement royal et aie soin que ce ne soit pas celui dont le pied est cassé. » « Si l'ameublement du château de Lochleven est en si mauvais état, madame, répondit la vieille lady, c'est la faute des rois d'Écosse. Les pauvres Douglas ont eu, depuis près d'un siècle, si peu de part aux faveurs de leur souverain qu'ils n'ont pas pu maintenir la splendeur de leurs ancêtres à la hauteur de celle de simples particuliers, et qu'il y a eu en Écosse tel musicien qui dépensait, à ce que l'on assure, en un mois, le revenu de toute une année. « Ceux qui savent si bien prendre, milady, répondit la reine, n'ont pas besoin qu'on leur donne. » Les Douglas, ce me semble, n'ont rien perdu pour attendre et il n'y a pas de fils cadet de cette noble famille qui ne puisse aujourd'hui aspirer aux plus hautes alliances. Il est fâcheux, vraiment, que notre sœur la reine d'Angleterre ait fait, à ce qu'on assure, vœu de virginité. Ou bien, interrompit Lady Lochleven, que la reine d'Écosse ne soit pas veuve de son troisième mari. Au reste, continua la vieille dame, avec un fin retour sur elle-même, je ne dis point cela pour faire un reproche à votre grâce. Les catholiques regardent le mariage comme un sacrement, et à ce titre le reçoivent le plus souvent qu'ils peuvent. C'est donc, répondit Marie, la différence qui existe entre eux et les Huguenots, car ceux-ci, n'ayant point le même respect pour lui, croient dans certaines circonstances qu'il leur est permis de s'en dispenser. Lady Lochleven, à ce sarcasme terrible, fit un pas vers Marie Stuart, tenant à la main le couteau dont elle venait de se servir pour tailler un morceau de la viande qu'on lui avait donné à goûter. Mais la reine se leva devant elle avec un si grand calme et une telle majesté que, soit respect involontaire, soit honte de ce premier mouvement, elle laissa tomber l'arme qu'elle tenait et, ne trouvant rien d'assez fort à répondre pour exprimer les sentiments qui l'agitaient, elle fit signe aux domestiques de la suivre et sortit de l'appartement avec toute la dignité que la colère lui permit d'appeler à son secours. À peine Lady Lochleven eut-elle quitté la place que la reine se rassit, joyeuse et triomphante de la victoire qu'elle venait de remporter, et mangea de meilleur appétit qu'elle n'avait encore fait depuis qu'elle était prisonnière, tandis que Mary Seyton déplorait, à demi-voix et avec tout le respect possible, ce funeste don de la répartie que Marie avait reçu du ciel et qui fut, avec sa beauté, une des causes de tous ses malheurs. Mais la reine ne fit que rire de toutes ces observations, disant qu'elle était curieuse de voir la figure que ferait sa bonne hôtesse à l'heure du dîner. Après le déjeuner, la reine descendit au jardin. Son orgueil satisfait lui avait rendu une partie de sa gaieté, si bien que voyant, en traversant la salle d'honneur, une mandoline oubliée sur une chaise, elle ordonna à Mary Seyton de la prendre pour voir, dit-elle, si elle se rappelait encore son ancien talent. En effet, la reine était une des meilleures musiciennes de l'époque et jouait admirablement, dit Brantôme, du luth et de la viole d'amour, instrument qui ressemblait beaucoup à la mandoline. Mary Seyton obéit. Arrivée dans le jardin, la reine s'assit sous le bosquet le plus sombre, et là, ayant accordé son instrument, elle en tira d'abord des accords vifs et légers, qui bientôt s'assombrirent peu à peu, en même temps que son visage prenait une teinte de mélancolie profonde. Mary Seyton la regardait avec inquiétude, quoiqu'elle fût depuis longtemps habituée à ces variations soudaines dans le caractère de sa maîtresse, et elle allait lui demander la cause de ce voile sombre qui s'était tout à coup étendu sur son visage, lorsque, régularisant ses accords, Marie commença de chanter à voix basse, et comme pour elle seule, les vers suivants. « Astres, prés, monts et plaines, rochers, forêts et bois, ruisseaux, fleuves, fontaines, où perdu je me vois, d'une plainte incertaine, de sanglots toute pleine, je veux chanter la misérable peine qui me fait lamenter. Mais qui pourra entendre mon soupir gémissant, ou qui pourra comprendre mon ennui languissant? Sera-ce cet herbage ou l'eau de ce rivage qui, s'écoulant, porte de mon visage ce ruisseau distillant? Hélas non, car la plaie cherche en vain guérison, qui pour secours essaie aux choses sans raison. Il vaut mieux que ma plainte raconte son atteinte amèrement à toi qui as contrainte mon âme en tel tourment. Ô déesse immortelle, écoute donc ma voix, toi qui tiens en tutelle mon pouvoir sous tes lois, afin que si ma vie se voit en bref tarie, ta cruauté la confesse périt par ta seule beauté. On voit bien que ma face s'écoule peu à peu, comme la froide glace à la chaleur du feu. Et néanmoins, la flamme qui me brûle et m'enflamme de passion n'aime jamais ton âme d'aucune affection. Et cependant, ces arbres qui sont autour de moi, ces rochers et ces marbres savent bien mon émoi. Bref, rien dans la nature n'ignore ma blessure, hors seulement toi qui prends nourriture de mon cruel tourment. Mais s'il t'est agréable de me voir misérable en tourmentelle, mon malheur déplorable soit alors immortel. » Ce dernier vers s'en alla expirant, comme si la reine fût arrivée au bout de sa force. En même temps, la mandoline lui échappa des mains et serait tombée à terre si Mary Seyton ne se fût jetée à genoux et ne l'eût retenue. La jeune fille demeura quelque temps ainsi aux pieds de sa maîtresse, la regardant en silence, et comme elle vit qu'elle s'enfonçait de plus en plus dans de sombres pensées, « Ces vers ont rappelé à votre majesté un triste souvenir ?» demanda-t-elle en hésitant. « Oh oui !» répondit la reine, « ils m'ont rappelé le malheureux qui les a faits. » « Et puis-je, sans indiscrétion, continua Mary Seyton, demander à votre grâce quel en est l'auteur ?»« Hélas, c'était un noble, brave et beau jeune homme au cœur dévoué et à la tête ardente qui me défendrait aujourd'hui si alors je l'eusse défendu. Mais sa hardiesse m'a paru de la témérité et sa faute un crime. Que veux-tu? Je ne l'aimais pas. Pauvre châtelard, j'ai été bien cruelle envers lui. Ce n'est pas vous qui l'avez poursuivi, c'est votre frère. Ce n'est pas vous qui l'avez condamné, ce sont les juges. Oui, oui, je sais que c'est encore une victime de Murray, et c'est sans doute pour cela que son souvenir m'est revenu à cette heure. Mais je pouvais lui faire grâce, Marie, et j'ai été inflexible. J'ai laissé monter sur l'échafaud un homme dont le seul crime était de m'avoir trop aimé. Et maintenant, je m'étonne et me plains d'être abandonnée de tous. Écoute, mignonne, il y a une chose qui m'effraie, c'est que, lorsque je descends en moi-même, je trouve que non seulement j'ai mérité mon sort, mais encore que Dieu ne me punit pas assez sévèrement. Dans quelles idées va se perdre votre grâce ? S'écria Marie. Et voyez où vous ont mené ces malheureux vers qui vous sont revenus à la mémoire, aujourd'hui justement où vous commenciez à reprendre un peu de votre gaieté. Hélas, répondit la reine en secouant la tête et en poussant un profond soupir. Il s'est écoulé bien peu de jours depuis 6 ans sans que j'aie dit ces vers tout bas, quoique ce soit aujourd'hui la première fois que je les répète tout haut. C'était encore un Français, Marie. Ils m'ont exilé, pris ou tué tous ceux qui me venaient de France. Te rappelles-tu ce vaisseau qui s'engloutit devant nous lorsque nous sortîmes du port de Calais? Je m'écriai alors que c'était un triste présage. Vous voulûtes tous me rassurer. Eh bien, maintenant, qui avait raison, de vous ou de moi? La reine était dans un de ces accès de tristesse dont les larmes sont le seul remède. Aussi, Mary Seyton, s'apercevant que non seulement toute consolation serait vaine, mais encore inopportune, bien loin de continuer à réagir contre la mélancolie de sa maîtresse, abonda-t-elle dans son sens. Il en résulta que la reine, qui étouffait, finit enfin par pleurer et que ses pleurs la soulagèrent. Puis, peu à peu, elle reprit son empire sur elle-même et cette crise passa comme d'habitude, la laissant plus ferme et plus résolue que jamais, de sorte que, lorsqu'elle remonta dans sa chambre, il était impossible de lire sur son visage la moindre altération. L'heure du dîner s'approchait, et Marie, qui le matin l'attendait avec impatience pour jouir de son triomphe sur Lady Lochleven, la voyait s'avancer à cette heure avec inquiétude. L'idée seule de se retrouver en face de cette femme, dont on était toujours obligé de combattre l'orgueil par l'insolence, était, après les fatigues morales de la journée, une fatigue nouvelle. Aussi résolut-elle, comme la veille, de ne point paraître au dîner. Elle fut d'autant plus aise d'avoir pris cette résolution que, cette fois, ce n'était pas Lady Lochleven qui venait remplir auprès d'elle les fonctions qu'un membre de la famille s'était imposé pour tranquilliser la reine, mais George Douglas, que sa mère, dans son mécontentement de la scène du matin, envoyait pour la remplacer. Aussi, lorsque Mary Seyton eut dit à la reine qu'elle voyait le jeune homme aux cheveux bruns traverser la cour pour se rendre chez elle, Mary se félicita-t-elle encore davantage du parti qu'elle avait pris, car l'insolence de ce jeune homme lui avait fait une blessure plus profonde au cœur que toutes les orgueilleuses insultes de sa mère. La reine ne fut donc pas peu étonnée lorsqu'au bout de quelques minutes, Mary Seyton rentra dans sa chambre et lui annonça que George Douglas, après avoir envoyé les domestiques, désirait avoir l'honneur de lui parler pour affaires d'importance. La reine refusa d'abord, mais Mary Seyton lui dit que l'air et les manières de ce jeune homme étaient tellement différents cette fois de ce qu'elle les avait vus 2 jours auparavant qu'elle croyait que sa maîtresse aurait tort de lui refuser sa demande. La reine alors se leva et, avec la hauteur et la majesté qui lui étaient habituelles, entra dans la chambre voisine et, après avoir fait trois pas, s'arrêta d'un air dédaigneux, attendant que Georges lui adressât la parole. Mary Seyton avait dit vrai. George Douglas n'était plus le même homme. Autant Marie l'avait vu hautain et orgueilleux la veille, autant aujourd'hui il semblait respectueux et craintif. Il fit à son tour un mouvement vers la reine, mais voyant Mary Seyton debout derrière elle, « Madame, lui dit-il, je désirais parler à votre majesté seule. N'obtiendrai-je point cette grâce ?»« Mary Seyton n'est pas quelqu'un pour moi, monsieur. C'est ma sœur, c'est mon amie. C'est plus que tout cela, c'est ma compagne de captivité. » Et à tous ces titres, madame, j'ai pour elle la vénération la plus grande. Cependant, ce que j'ai à vous dire ne peut être entendu par d'autres oreilles que par les vôtres. Ainsi donc, madame, comme l'occasion offerte en ce moment ne se représenterait peut-être pas, au nom de ce que vous avez de plus cher au monde, accordez-moi ce que je vous demande. Il y avait dans la voix de Georges une telle expression de respectueuse prière que Marie se retourna vers la jeune fille et, lui faisant de la main un signe d'amitié, « Va donc, mignonne, lui dit-elle, mais sois tranquille, tu n'y perdras rien pour ne pas entendre, va !» Mary Seyton se retira. La reine la suivit des yeux en souriant jusqu'à ce que la porte fût refermée. Puis, se retournant alors vers Georges, « Maintenant, monsieur, lui dit-elle, nous sommes seuls, parlez !» Mais Georges, au lieu de lui répondre, s'avança vers la reine et, mettant un genou en terre, tira de sa poitrine un papier qu'il lui présenta. Marie le prit avec étonnement, le déplia en regardant Douglas, qui demeurait toujours dans la même attitude, et lut ce qui suit. « Nous, comtes, lords et barons, ayant considéré que notre reine est détenue à Lochleven, et que ses fidèles sujets ne peuvent avoir accès auprès de sa personne, voyons d'autre part que notre devoir nous engage à pourvoir à sa sûreté, promettons et jurons d'employer tous les moyens raisonnables qui dépendront de nous pour la remettre en liberté à des conditions compatibles avec l'honneur de sa majesté, avec le bien du royaume et même avec la sûreté de ceux qui la retiennent en prison, pourvu qu'ils consentent à la délivrer. Que s'ils refusent, nous déclarons que nous sommes dans la disposition de nos employés, nous et nos enfants, nos amis, nos domestiques, nos vassaux, nos biens, nos corps et nos vies, pour la remettre en liberté, pour procurer la sûreté du prince et pour concourir au châtiment des meurtriers du feu roi. Si l'on nous attaque pour cet effet, soit encore, soit en particulier, nous promettons de nous défendre et de nous assister les uns les autres sous peine d'infamie et de parjure. Ainsi, Dieu nous soit en aide. Signé de nos propres mains à Dumbarton, S. André, Argyll, Huntley, Arbroath, Galloway, Ross, Fleming, Harris, Skirling, Kilwinning, Wilt, Hamilton et Sinclair, Chevalier. Et Seyton, s'écria Marie, je ne vois pas parmi toutes ces signatures celle de mon fidèle Seyton. Douglas, toujours à genoux, tira un second papier de sa poitrine et le présenta à la reine avec les mêmes marques de respect. Il ne contenait que ces quelques paroles. Fiez-vous à George Douglas, car votre majesté n'a pas d'amis plus dévoués dans tout le royaume. Seyton. Alors Marie abaissa ses yeux vers Douglas avec une expression qui n'appartenait qu'à elle. Puis, lui tendant la main pour le relever, « Ah !» dit-elle avec un soupir où il y avait plus de joie que de douleur. Je vois bien que Dieu ne m'a point, malgré mes fautes, abandonné encore. Mais comment se fait-il, dans ce château, que vous, un Douglas, c'est à ne pas y croire ?»« Madame, répondit Georges, il y a 7 ans que je vous ai vue pour la première fois en France, et il y a 7 ans que je vous aime. » Marie fit un mouvement, mais Douglas étendit la main et secoua la tête avec un air de si profonde tristesse qu'elle comprit qu'elle pouvait entendre ce qu'avait à lui dire le jeune homme. Il continua. « Rassurez-vous, madame, je ne vous eusse jamais fait cet aveu si cet aveu, en vous expliquant ma conduite, n'eût pas dû vous donner une confiance plus grande en moi. Oui, il y a 7 ans que je vous aime, mais comme on aime une étoile qu'on ne peut atteindre, une madone qu'on ne peut que prier. Depuis 7 ans, je vous ai suivi partout sans que jamais vous ayez fait attention à moi, sans que jamais j'ai dit un mot ni fait un geste pour attirer vos regards. J'étais sur la galère du chevalier de Mévillon lorsque vous passâtes en Écosse. J'étais parmi les soldats du régent lorsque vous battîtes Huntley. J'étais de l'escorte qui vous accompagna lorsque vous allâtes voir le roi malade à Glasgow. J'arrivais à Édimbourg une heure après que vous en étiez parti pour Lochleven, et alors il me sembla que pour la première fois ma mission m'était révélée et que cet amour, que jusqu'alors je m'étais reproché comme un crime, était au contraire une faveur de Dieu. J'appris que les nobles étaient rassemblés à Dumbarton. J'ai couru. J'engageai mon nom, j'engageai mon honneur, j'engageai ma vie, et j'obtins d'eux, grâce à la facilité que j'avais de rentrer dans cette forteresse, le bonheur de vous apporter l'acte qu'ils venaient de signer. Maintenant, madame, oubliez tout ce que je vous ai dit, excepté les assurances de mon dévouement et de mon respect. Oubliez que je suis près de vous. Je suis habitué à ne pas être vu. Seulement, si vous avez besoin de ma vie, faites un signe, car depuis 7 ans, ma vie est à vous. « Hélas !» répondit Marie, « je me plaignais ce matin de n'être plus aimée, et je devrais me plaindre, au contraire, de ceux que l'on m'aime encore, car l'amour que j'inspire est fatal et mortel. Si jeune que je sois, Douglas, tournez les yeux en arrière et comptez les tombeaux que j'ai déjà laissés sur ma route. François II, Châtelard, Rizzio, Darnley. Oh, il faut plus que de l'amour maintenant pour s'attacher à ma fortune. Il faut de l'héroïsme et du dévouement, d'autant plus, vous l'avez dit, Douglas, que c'est un amour sans récompense possible. Entendez-vous bien ? Oh, madame, madame, répondit Douglas, n'est-ce point une récompense au-dessus de mes mérites que celle de vous voir tous les jours, de nourrir l'espérance que la liberté vous sera rendue par moi, et d'avoir au moins, si je ne vous la rends pas, la certitude de mourir sous vos yeux. Pauvre jeune homme ! Murmura Marie, les regards levés au ciel, et comme si elle y lisait d'avance le sort qui attendait son nouveau défenseur. Heureux Douglas, au contraire ! S'écria Georges en saisissant la main de la reine et en la baisant avec plus de respect encore peut-être que d'amour. Heureux Douglas, car il a déjà obtenu de votre majesté plus qu'il n'espérait en obtenant un soupir. Et qu'avez-vous décidé avec mes amis ? Dit la reine en relevant Douglas, qui jusque-là s'était tenu à genoux devant elle. Rien encore, répondit Georges, car à peine avons-nous eu le temps de nous voir. Votre évasion, impossible sans moi, est encore difficile même avec moi, et votre majesté a vu qu'il m'a fallu lui manquer publiquement de respect pour obtenir de ma mère la confiance qui me vaut aujourd'hui le bonheur de la voir. Si cette confiance s'étend jamais, de la part de ma mère ou de mon frère, jusqu'à me remettre les clés du château, alors vous êtes sauvés. Que votre majesté ne s'étonne donc de rien. Devant tous, je serai toujours pour elle un Douglas, c'est-à-dire un ennemi, et jusqu'à ce qu'il y ait péril de vie pour vous, madame, je ne dirai pas une parole, je ne ferai pas un geste qui puisse trahir la foi que je vous ai jurée. Mais de votre côté, que votre grâce sache bien que, présent comme absent, que je me taise ou que je parle, que j'agisse ou que je demeure en repos, tout ne sera qu'apparence, excepté mon dévouement. Seulement, continua Douglas en s'approchant de la fenêtre et en montrant à la reine une petite maison située sur la colline de Kinross, seulement, regardez tous les soirs dans cette direction, madame, et tant que vous y verrez briller une lumière, c'est que vos amis veilleront pour vous et qu'il ne faut pas perdre l'espérance. Merci, Douglas, merci, dit la reine, cela fait du bien de retrouver de temps en temps un cœur comme le vôtre. Oh, merci! « Et maintenant, madame, répondit le jeune homme, il faut que je quitte votre majesté. Demeurer plus longtemps près de vous serait donner des soupçons, et un seul soupçon sur moi, songez-y bien, madame, et cette lumière qui est votre seul phare s'éteint et tout rentre dans la nuit. » À ces mots, Douglas s'inclina plus respectueusement qu'il n'avait encore fait et se retira, laissant Marie pleine d'espérance et encore plus d'orgueil, car cette fois, c'était bien pour la femme et non pour la reine qu'était l'hommage qu'elle venait de recevoir. Ainsi que le lui avait dit la reine, Marie Seyton sut tout, même l'amour de Douglas, et les deux femmes attendirent avec impatience le soir pour voir si l'étoile qui leur avait été promise brillerait à l'horizon. Leur espoir ne fut pas trompé. À l'heure dite, le phare s'alluma. La reine en tressaillit de joie, car c'était la confirmation de ses espérances, et sa compagne ne pouvait pas l'arracher de la fenêtre où elle restait, les yeux fixés sur la petite maison de Kinross. Enfin, elle céda aux prières de Mary Seyton et consentit à se coucher. Mais deux fois dans la nuit, elle se releva sans bruit pour aller à sa fenêtre. La lumière brillait toujours et ne s'éteignit qu'au crépuscule avec ses sœurs les étoiles. Le lendemain, au déjeuner, George annonça à la reine le retour de son frère William Douglas. Il arrivait le soir même. Quant à lui, George, il devait quitter Lochleven le lendemain matin pour s'entendre avec les lords qui avaient signé la déclaration et qui s'étaient séparés aussitôt pour lever des troupes dans leurs différents comtés. La reine ne pouvait tenter avec fruit aucune évasion qu'au moment où elle serait sûre de rassembler autour d'elle une armée assez forte pour tenir la campagne. Quant à lui, Douglas, on était tellement habitué à ses disparitions silencieuses et à ses retours inattendus qu'il n'y avait point lieu de craindre que son départ inspirât aucun soupçon. Tout se passa comme l'avait dit George. Le soir, le son d'un cor annonça l'arrivée de William Douglas. Il avait avec lui Lord Ruthwen, le fils de celui qui avait assassiné Rizzio et qui, exilé avec Morton à la suite de ce meurtre, était mort en Angleterre de la maladie dont il était déjà atteint le jour de la catastrophe terrible à laquelle nous l'avons vu prendre une si large part. Il précédait d'un jour Lord Lindsay de Byres et Sir Robert Melville, frère de l'ancien ambassadeur de Marie auprès d'Élisabeth. Tous trois étaient chargés d'une mission du régent pour la reine. Le lendemain, tout rentra dans l'ordre accoutumé et William Douglas reprit ses fonctions d'écuyer tranchant. Le déjeuner se passa sans que Marie apprît rien du départ de George ni de l'arrivée de Ruthwen. En se levant de table, elle se mit à sa fenêtre. À peine y était-elle qu'elle entendit le son du cor retentir sur les rives du lac et qu'elle vit une petite troupe de cavaliers faire halte en attendant que la barque vînt chercher ceux d'entre eux qui devaient se rendre au château. La distance était trop grande pour que Marie pût reconnaître aucun de ceux qui venaient lui rendre visite, mais il était évident, aux signes d'intelligence échangés entre la petite troupe et les habitants de la forteresse, que les nouveaux arrivants étaient de ses ennemis. Ce fut une raison pour que, dans son inquiétude, la reine ne perdit pas un instant de vue la barque qui les allait chercher. Elle y vit descendre deux hommes seulement, et aussitôt la barque reprendre le chemin du château. À mesure que la barque s'approchait, les pressentiments de Marie se changeaient en craintes véritables, car dans l'un des hommes qui s'avançait, elle croyait reconnaître Lord Lindsay de Byre, le même qui, 8 jours auparavant, l'avait amené dans sa prison. En effet, c'était lui-même, couvert comme d'habitude d'un casque d'acier sans visière, qui laissait voir son visage rude et fait pour exprimer les fortes passions et sa longue barbe noire parsemée de quelques poils gris qui lui tombaient jusque sur la poitrine. Son corps était protégé, comme s'il était en guerre, de sa fidèle cuirasse, autrefois polie et bien dorée, mais qui, sans cesse exposée à la pluie et au brouillard, était maintenant rongée par la rouille. Il portait sur le dos, à peu près comme on porte un carquois, une grande épée si lourde qu'on ne pouvait la manier qu'à deux mains, et si longue que, tandis que la poignée s'élevait jusqu'à l'épaule gauche, la pointe descendait jusqu'à l'éperon droit. En un mot, c'était toujours le même soldat, brave jusqu'à la témérité, mais brutal jusqu'à l'insolence, ne connaissant rien que le droit et la force, et toujours prêt à user de la force quand il se croyait dans le droit. La reine était tellement préoccupée de la vue de Lord Lindsay de Byre que ce ne fut qu'au moment où la barque était près de toucher le rivage qu'elle jeta les yeux sur son compagnon et reconnut Robert Melville. Ce fut une consolation pour elle, car quelque chose qui arriva, elle savait au moins trouver en celui-ci une sympathie, sinon ostensible, du moins secrète. Au reste, son costume, par lequel on aurait pu le juger, ainsi que Lord Lindsay par le sien, formait un contraste parfait avec celui de son compagnon. Il se composait d'un pourpoint de velours noir, avec une toque et une plume de la même couleur, attachée par une agrafe d'or. Sa seule arme offensive et défensive était une petite épée qui semblait porter plutôt pour indiquer son rang que pour attaquer ou se défendre. Quant à ses traits et à ses manières, ils étaient en harmonie avec cette apparence pacifique. Son visage pâle exprimait à la fois la finesse et l'intelligence. Son œil vif était plein de douceur et sa voix insinuante, sa taille mince et légèrement courbée par l'habitude plutôt que par les années, puisqu'il n'avait à cette époque que 45 ans, indiquait en lui un caractère facile et conciliant. Cependant, la présence de cet homme de paix, qui semblait chargé de veiller sur le démon de la guerre, ne put rassurer la reine, et comme, pour se rendre au débarcadère, situé devant la grande porte du château, la barque venait de disparaître à l'angle d'une tour, elle ordonna à Mary Seyton de descendre afin de tâcher d'apprendre quelle cause amenait Lord Lindsay à Lochleven, sachant bien qu'avec la force de caractère dont elle était douée, elle en avait besoin de connaître cette cause que quelques minutes auparavant pour donner à son visage, quelle qu'elle fût, ce calme et cette majesté dont elle avait toujours éprouvé l'influence sur ses ennemis. Restée seule, Mary reporta ses yeux sur la petite maison de Kinross, son seul espoir, mais la distance était trop grande pour qu'on n'y pût rien distinguer. D'ailleurs, ses contrevents restaient fermés tout le jour et semblaient ne s'ouvrir que le soir, pareils aux nuages qui, après avoir couvert le ciel toute une matinée, s'écartent enfin pour laisser voir aux matelots perdus une seule étoile. Elle n'en était pas moins demeurée ainsi, immobile et les yeux toujours fixés sur le même objet, lorsqu'elle fut tirée de cette contemplation muette par les pas de Mary Seyton. « Eh bien, mignonne !» demanda la reine en se retournant. « Votre Majesté ne s'est point trompée, » répondit la messagère. « C'était bien Sir Robert Melville et Lord Lindsay. Mais dès hier, il était arrivé avec Sir William Douglas, un troisième ambassadeur dont le nom, je le crains bien, sera encore plus odieux à votre Majesté qu'aucun des deux que je viens de prononcer. » « Tu te trompes, Marie, » répondit la reine. « Ni le nom de Melville, ni celui de Lindsay ne me sont odieux. Celui de Melville, au contraire, est, dans les circonstances où je me trouve, un de ceux que mon oreille a le plus de plaisir à entendre. Quant à celui de Lord Lindsay, il ne m'est point agréable sans doute, mais ce n'en est pas moins un nom honorable, toujours porté par des hommes brusques et sauvages, c'est vrai, mais incapables de trahison. Dis-moi donc quel est ce nom, Marie ? « Car, tu le vois, je suis calme et préparée. »« Hélas, madame, reprit Marie, si calme et si préparée que vous soyez, rappelez encore toutes vos forces, non seulement pour entendre prononcer ce nom, mais encore pour recevoir dans quelques instants l'homme qui le porte, car ce nom est celui de Lord Ruthven. » Mary Seyton avait dit vrai, et ce nom eut une influence terrible sur la reine, car à peine se fut-il échappé des lèvres de la jeune fille que Mary Stuart jeta un cri et, pâlissant comme si elle allait s'évanouir, se retint au bord de la croisée. Mary Seyton, effrayée de l'effet qu'avait produit ce nom fatal, s'élança aussitôt vers la reine pour la soutenir. Mais celle-ci, étendant une main vers elle, tandis qu'elle appuyait l'autre sur son cœur, « Ce n'est rien, dit-elle, et dans un instant je serai remise. » « Oui, Marie, oui, tu l'as dit, c'est un nom fatal et mêlé à un de mes plus sanglants souvenirs. Ce que viennent me demander de pareils hommes doit être bien terrible. Mais n'importe, bientôt je serai prête à recevoir les ambassadeurs de mon frère, car sans doute ils sont envoyés en son nom. Toi, mignonne, empêche qu'il n'entre, car j'ai besoin de quelques instants pour me remettre. Tu me connais, ce ne sera pas long. » À ces mots, la reine se retira d'un pas ferme vers la porte de sa chambre à coucher. Mary Seyton resta seule, admirant cette force de caractère qui faisait de Mary Stuart, si complètement femme sous tous les autres rapports, un homme au moment du danger. Aussitôt, elle alla vers la porte pour la fermer avec la traverse de bois que l'on passait entre deux anneaux de fer, mais la traverse était enlevée, de sorte qu'il n'y avait aucun moyen de la fermer en dedans. Au bout d'un instant, elle entendit qu'on montait l'escalier et, devinant au pas lourd et résonnant de celui qui arrivait que ce devait être Lord Lindsay, elle regarda encore une fois autour d'elle si elle ne voyait pas quelque chose qui pût remplacer la traverse et, ne trouvant rien à sa portée, elle passa son bras dans les anneaux, décidée à se le faire briser plutôt que de laisser entrer près de sa maîtresse avant le moment qui lui conviendrait. En effet, à peine ceux qui montaient furent-ils arrivés sur le palier qu'on frappa violemment et qu'une voix brusque cria « Allons, allons, qu'on ouvre la porte, qu'on ouvre à l'instant !»« Et de quel droit, dit Mary Seyton, m'ordonne-t-on aussi insolemment d'ouvrir la porte de la reine d'Écosse ?»« Du droit qu'a l'ambassadeur du régent d'entrer partout en son nom. Je suis Lord Lindsay et je viens pour parler à Lady Mary Stuart. » « Pour être ambassadeur, répondit Mary Seyton, On n'est point dispensé de se faire annoncer chez une femme, et à plus forte raison chez une reine. Et si cet ambassadeur est, ainsi qu'il le dit, Lord Lindsay, il attendra, comme le ferait à sa place tout noble écossais, le loisir de sa souveraine. Par Saint-André, s'écria Lord Lindsay, ouvrez ou j'enfonce cette porte. N'en faites rien, milord, je vous en supplie, dit une autre voix que Mary Seyton reconnut pour être celle de Melville. Attendons plutôt un instant Lord Ruthwen, qui n'est point encore prêt. Sur mon âme, s'écria Lindsay en secouant la porte, je n'attendrai pas une seconde. Puis, voyant qu'elle résistait, que me disais-tu donc, drôle, continua Lindsay en s'adressant à l'intendant, que la traverse avait été enlevée? C'est la vérité, répondit celui-ci. Alors, reprit Lindsay, avec quoi cette péronnelle retient-elle la porte? Avec mon bras, mylord, que j'ai passé dans les anneaux comme fit pour le roi Jacques Ier une Douglas, au temps où les Douglas avaient les cheveux noirs au lieu de les avoir roux, et étaient fidèles au lieu d'être traîtres. Puisque tu sais si bien ton histoire, répondit Lindsay avec rage, tu dois te rappeler que cette faible barrière n'arrêta point Graham, que le bras de Catherine Douglas fut brisé comme une baguette de saule, et que Jacques Ier fut tué comme un chien. Mais vous, mylord, répondit la courageuse jeune fille, vous devez savoir aussi la ballade que l'on chante encore de nos jours. Honni soit Robert Graham, du roi l'assassin infâme. Robert Graham, honni soit l'assassin de notre roi. Marie, s'écria la reine, qui avait entendu cette altercation de sa chambre à coucher. Marie, je vous ordonne d'ouvrir la porte à l'instant même. Entendez-vous ? Marie obéit et Lord Lindsay entra, suivi de Melville, qui marchait derrière lui, la tête baissée et appâlant. Arrivé au milieu de la seconde chambre, Lord Lindsay s'arrêta et, regardant autour de lui, « Eh bien, où est-elle donc ? » demanda-t-il. « Et ne nous a-t-elle point fait déjà assez attendre dehors, sans nous faire encore attendre dedans ? Ou bien se figurerait-elle, malgré ses murs et ses barreaux, qu'elle est toujours reine ?»« Patience, milord, murmura Sir Robert. Vous voyez bien que Lord Ruthwen n'est point encore arrivé, et puisque nous ne pouvons rien faire sans lui, attendons-le. » »« Attendra qui voudra, répondit Lindsay, enflammé de colère, mais ce ne sera pas moi, et où elle sera, j'irai la chercher. » À ces mots, il fit quelques pas vers la chambre à coucher de Marie Stuart. Mais au même instant, la reine ouvrit la porte sans paraître émue, ni de la visite, ni de l'insolence du visiteur, et si belle et si pleine de majesté que chacun, et jusqu'à Lindsay lui-même, demeura en silence à son aspect, et comme obéissant à une force supérieure, s'inclina respectueusement devant elle.